l'actualité, donc ça c'est l'arrêté du le bail.
Il y a la jurisprudence, celle que vous évoquez, du 13 octobre 2022, du bulletin officiel de la Sécurité sociale, qu'on a évoqué sur le caractère des frais forfaitaires qui sont plus forfaitaires. Décision implicite de non-assujettissement, on vous l'a mis rapidement parce que... bon, là je pense qu'on a touché la fin de la décision implicite. C'est en fait, on doit démontrer que l'URSSAF avait eu les moyens d'identifier la pratique lors du précédent contrôle pour dire qu'ils n'ont pas le droit de nous redresser sur le contrôle T. Ici, pour dire que l'URSSAF avait eu les moyens de contrôler une pratique paye, on avait dit, mais dans cet arrêt, mais écoutez, vous avez eu accès au bulletin de paye. La preuve, dans la liste des documents consultés, c'est marqué bulletin de paye. La Cour de cassation, qui valide le raisonnement de la Cour d'appel, qui dit que. En gros, le simple fait de marquer bulletin de paye, ça ne veut pas dire que l'URSSAF a vérifié tous les bulletins de paye. Bon. Voilà. Moi, je reste circonspect quand même par rapport à ça. Ça veut dire que maintenant, on va demander à l'URSSAF d'annexer tous les bulletins de paye qui ont été contrôlés, si on va aller au bout de cette jurisprudence. Mais de toute façon, ce n'est pas une surprise. Ça va dans la droite ligne de la décision implicite très compliquée. Les chefs de redressement calculés sur une méthode spécifique, donc hors du cadre de la taxation forfaitaire, doivent être annulés. Ça, c'est une jurisprudence classique également. On l'a évoqué ce matin. Quelques actualités diverses. Véhicules électriques. On continue la tolérance sur les véhicules électriques. Je vous rappelle que l'avantage en nature véhicule électrique, on a une tolérance avec une prise en charge. On ne prend pas en compte le carburant, enfin l'électricité de l'employeur.
Mais je dirais, et est-ce que ça va perdurer avec le prix d'énergie ?
Bah, 31 décembre 2024. Bon. Et il y a un abattement de 50% sur la valo de l'avantage en nature. Ça a été prolongé toute dernière limite fin décembre jusqu'au 31 décembre 2024. Et pareil, il y a eu un décret sur les bornes de recharge où les bornes de recharge qui sont installées sur le lieu de travail ne sont pas un avantage en nature. Et les bornes de recharge installées au domicile du collaborateur ne constituent pas également un avantage en nature si l'employeur les reprend à la fin du contrat. Et également, c'est un avantage en nature, mais uniquement à hauteur de 50% de la valeur si l'employeur ne le reprend pas à la fin. Prime de partage de la valeur, pour finir en beauté cette journée. La prime de partage de valeur, c'est l'ancêtre. C'est l'enfant, pardon, de la PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Je vous rappelle la PEPA, dispositif créé à la suite du mouvement des Gilets jaunes, qui a tellement bien fonctionné que maintenant on l'a pérennisé. Et il faut bien que les entreprises aient conscience que maintenant, dans la pyramide des éléments qui permettent de partager la valeur dans l'entreprise, on a la participation, on a l'intéressement, on a le plan d'épargne et maintenant, on a la prime de partage de la valeur. C'est un dispositif qui est pérenne maintenant pour toutes les entreprises. L'énorme différence avec l'intéressement et la participation, c'est qu'il n'y a pas la sécurisation juridique. Quand vous faites un accord d'intéressement, quand vous faites un accord de participation, vous le déposez à l'administration et donc à l'URSSAF qui le contrôle. Quand l'URSSAF dit rien ou dit OK, vous ne pouvez pas vous faire redresser. La prime de partage de la valeur, on a voulu dire aux entreprises, on vous offre un outil tellement simple à mettre en place, utilisez-le, améliorez le pouvoir d'achat de vos collaborateurs avec ce dispositif. Toutes les entreprises l'ont utilisé, effectivement, c'est simple à mettre en œuvre. C'est une décision unilatérale ou un accord collectif. Le problème, c'est qu'il n'y a pas cette sécurisation et que je vous rappelle que la sécurisation, c'est né de la pratique, hein, parce que les entreprises, elles se prenaient des redressements massifs sur l'intéressement. C'était tout de suite des chiffrages astronomique, d'accord ? Je parle d'astronomique en millions ou même en dizaines de milliers d'euros. Je parle à hauteur de la masse salariale de l'entreprise, bien sûr. Hein. Et pour arrêter ces redressements très forts et pousser les entreprises à mettre le pas dans l'intéressement de manière un peu plus poussée avec toutes les politiques qui ont été mises en place sur les 10 dernières années, on a mis en place cette sécurisation des accords d'intéressement en 2008. Et à mon sens, là, via ça, on a fait une erreur en ne prévoyant pas la sécurisation et en voulant pousser les entreprises, on n'a pas appris de nos erreurs passées de l'intéressement. Et on va le voir dans 3 ans, on va avoir des sujets de redressement extrêmement importants sur cette PPV. On va prendre quelques exemples, hein, pêle-mêle. La PPV, le principal point du redressement, de toute façon, ce sera l'histoire de la modulation. Cette PPV, elle peut être modulée. Elle peut être modulée en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté, de la durée de présence et de la durée de travail. La question, déjà, c'est sur quelle période j'apprécie ça. On nous dit, pour certains des critères, c'est sur 12 mois. 12 mois glissants, 12 mois précédant le versement, point d'interrogation. Alors là, on est venu nous dire, dans une actualisation du BOS, que c'était 12 mois glissants. Mais si j'avais pris les 12 mois précédents avant l'actualisation du BOS, est-ce que je suis en risque? Ensuite, quel élément de rémunération je prends en compte? Est-ce que j'ai le droit de ne pas prendre en compte certains éléments de rémunération, si je l'écris dans la décision unilatérale? Je ne sais pas. Personne ne me le dit, c'est pas écrit. On sait très bien que certaines entreprises le font. Est-ce que ça sera des sujets de redressement? Je pense. Durée de présence. Durée de présence, on nous donne, dans la loi et dans la circulaire, une méthode pour venir déterminer la durée de présence, imbitable, très clairement. On renvoie aux réductions Fillon, à la détermination de l'agrégat SMIC servant au calcul des réductions Fillon, pour déterminer la présence. Sauf que, quand on creuse un petit peu ce sujet, le SMIC des réductions Fillon, il est non proratisé quand il y a un maintien de salaire. Dans les entreprises qui font un maintien de salaire à 100%, il n'y a pas de proratisation du SMIC dans le calcul des réductions Fillon. Donc ça voudrait dire que, par définition, si j'applique strictement ma doctrine administrative, ma PPV pour mon salarié absent pour maladie mais qui a un maintien à 100%, comme je ne proratise pas mon SMIC Fillon, je ne devrais pas lui proratiser ma PPV. Très franchement, je pense que beaucoup d'entreprises opèrent cette proratisation. Si on a un inspecteur un peu jusqu'au boutiste là-dessus, il pourra venir faire un redressement sur ces sujets-là. Autre point, cette modulation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut moduler? Nous, on a plein de clients qui ont dit bah, « super, l'ancienneté, ceux qui ont moins de 6 mois, je leur verse une prime un peu symbolique pour dire « vous êtes accueilli dans l'entreprise, je vous verse quelque chose, 50 euros ». En revanche, pour les autres, on part sur des primes un peu plus importantes, 800, 900 euros. En décembre, on a eu une actualisation du bulletin officiel de la Sécurité sociale qui est venue nous dire « vous pouvez parfaitement moduler, mais attention à ne pas tomber dans l'excès ». Ok, qu'est-ce que l'excès? L'excès, c'est quand même un critère extrêmement subjectif, en réalité. Et donc, ici, chaque inspecteur va avoir sa notion de l'excès. Là, l'exemple que je vous ai cité, j'ai pas de doute qu'on sera dans l'excès, d'accord? Mais au-delà de ça, ce qui me pose difficulté, c'est que c'est le BOS qui a été ajouté une condition, ici, à la prime de la partage de la valeur. Ça va poser une question pour les PPV qui ont été faits avant. Est-ce que cette précision va s'appliquer? Et sur les PPV qui ont été faites après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vraiment j'ai envie de respecter le BOS quand la loi ne me le dit pas, en fait, ce sujet-là? Quand la loi me dit juste « j'ai le droit de moduler », rien ne me dit « j'ai le droit de moduler un certain montant ». On ne me dit pas que je ne dois pas avoir d'excès. Et d'ailleurs, l'excès, en soi, ce n'est pas une notion juridique. D'accord ? À la limite, on m'a dit qu'il faut une stricte proportionnalité, comme on l'a en épargne salariale. Il n'y a pas de débat, je le comprends parfaitement. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi. Donc, sur ces problématiques de modulation, on va avoir quand même un certain nombre de sujets. Pareil, est-ce que je peux faire une PPV au niveau de d'un seul établissement ? Réponse de l'administration, la réponse est oui. Mais est-ce que je peux exclure carrément un établissement de la PPV? C'est pas si clair que ça. On sait très bien que certaines entreprises le font. Question, est-ce que potentiellement il y aura des redressements URSSAF? Si on a vu la sécurisation, on n'aurait pas eu ces sujets. À mon sens, on a des arguments juridiques assez forts pour le faire. Donc, cette PPV, il y a des négociations actuellement sur le partage de la valeur. Ils veulent la mettre au centre des débats, hein, très clairement. On le voit bien dans l'accord national interprofessionnel, le projet d'accord national interprofessionnel qui a été proposé, là, c'était hier ou avant-hier, je crois, qu'il est sorti. Ça devient vraiment
explosif. Vendredi dernier, il est ouvert à la signature jusqu'au 22 février.
Jusqu'au 22 février. On va pouvoir même verser cette PPV potentiellement via cet accord dans le plan d'épargne. Donc, ça renforce vraiment la chose. On va voir ce qu'il en sera de la sécurisation juridique. J'en discutais avec Mme Rezena qui m'indiquait qu'effectivement, ça va être source de fort contentieux.
Oui, fort contentieux. Non, pour nous, c'est une zone de risque.
Donc, quand des entreprises me disent j'hésite entre de l'intéressement et de la PPV, moi, j'hésite pas une seule seconde. Hein. Prenez l'intéressement. Après, je comprends que maintenant, dans votre politique salariale, la simplicité, c'est la PPV. Mais dans ce cas-là, partons sur des PPV les plus simples possibles et d'éviter de partir sur des choses trop compliquées.
Et surtout, la différence, quand même, c'est que la PPV, tu n'as pas de performance qui est exigée. Donc, c'est quand même deux véhicules différents avec une logique différente.
Je la mets dans la tête.
Oui, la performance, tu la fais à l'envers. Oui.